Europe 1,
16h-18h, l'équipée sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, bienvenue dans l'équipée sauvage, votre rendez-vous hybride de la fin de journée associant journalisme et bonne humeur pour apprendre sans pour autant se péter un neurone, même si se péter un neurone peut arriver, et même aux plus grands esprits. Prenons par exemple ma fidèle complice Eva Rock.
Ah, ça commence.
Tout s'est joué très vite, trop vite. Vendredi, nous étions en ligne avec notre correspondant dans le Nord qui nous parlait d'un nouveau type de vin blanc. Tout à coup, un neurone d'Eva en percute un autre, ce qui est vraiment un énorme manque de bol, sachant qu'elle en a au moins une bonne centaine. Et là, c'est l'enchaînement fatal. Elle décide de me reprendre, sa bouche s'ouvre, et c'est le drame.
Alors on le boit avec quoi ce petit blanc?
Non, on le mange avec quoi? Parce que si vous dites on boit avec quoi, ça fait...
On le mange avec quoi? Vous avez dit on mange un vin avec quelque chose? On le boit, Eva.
Oui. Ah oui, c'est moi qui...
Oh la vache, la vache, la vache.
Bonjour Eva, est-ce que vous êtes reposée ce week-end?
Non, je vous dirai bonjour une fois que j'aurai fini d'argumenter, comme ça va prendre 2 heures, ça sera pas possible.
Ah mais vous pouvez pas argumenter, vous avez tort tout simplement,
non,
vous dites n'importe
tort.
Quoi.
Je n'ai pas tort, oh, et je vous expliquerai pourquoi en antenne.
Je vois que le week-end ne vous a pas fait du bien.
Je vais très bien, je suis très heureuse de vous retrouver malgré les circonstances.
Et inquiet à la fois. Avec Eva qui vous guidera dans la jungle des programmes télé, on est ravis de vous accueillir dans l'équipe sauvage. 2 heures d'une bataille rangée entre les meilleurs journalistes d'Europe 1 qui chaque après-midi se surpassent au service de votre culture générale. Un seul sera élu chroniqueur du jour sous l'œil d'un invité que je ne cache pas ça. Hein. Je connais un peu dans la vie, c'est un pote. Ce qui fait que je suis un peu gêné aujourd'hui. Je ne sais pas comment je dois appeler l'urgentiste Patrick Peloux. Patrick, Patoche.
Appelez-moi docteur. Répondez-moi oui docteur ou non docteur.
Ah oui, pardon. Bonjour docteur. Bonjour docteur Peloux.
Bonjour, ça va?
Ça va pas mal. On connaît évidemment l'urgentiste, habitué des médias. On va parler évidemment du plan d'urgence pour l'hôpital. Mais cet après-midi, vous venez nous présenter un livre assez feel-good et complètement dans l'esprit culture G de notre émission, « Mieux vaut mourir debout que vivre à genoux, les derniers jours des grands hommes » de François Ier à Debussy en passant par Napoléon et Jean Jaurès. Vous êtes intéressé aux derniers instants des grands de ce monde. Pourquoi, Patrick? Est-ce que c'est parce que le premier exemplaire avait vachement bien marché?
Parce que. Mais non, mais ça m'intéressait. C'est un espèce de travail qui a été très long.
Gros travail d'enquête.
Ah oui, énorme, parce qu'en fait, j'avais commencé en 2013, puis après, avec l'attentat de Charlie, j'ai arrêté pendant 2 ans, donc ça a été long. Mais j'adore ça, j'adore aller dans les bibliothèques, faire ce travail. Et puis, c'était un espèce de concept que j'avais trouvé il y a quelques années, qui était de m'intéresser aux derniers instants pour replacer la personne qui est décédée, la personnalité, la célébrité ou pas, dans le contexte médico-psychologique, social et politique, environnemental. Donc voilà, c'est une grande aventure et c'est... Voilà, j'espère que ça va plaire aux gens, parce que c'était ça le but, et puis ça fait un bon voyage.
Oui. On va évidemment feuilleter ensemble ce livre passionnant, mais d'abord je vous présente les journalistes en compétition aujourd'hui. Attention, si je mets la musique du Téléthon pour les présenter, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il faudrait donner des thunes pour les aider, c'est juste que c'est dynamique hein, comme musique de présentation. De toute manière, connaissant son oreille approximative, il est peu probable que notre premier journaliste en compétition aujourd'hui l'ait reconnu, pas vrai Anissé?
Je crois que c'est le petit peu d'un mambousse moi.
C'est PMD, bonjour Anissé Mbida.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes notre expert innovation et aujourd'hui vous nous présentez un dispositif qui potentiellement va changer la vie des personnes souffrant de la maladie de Parkinson.
Oui, parce que quand on parle de la maladie de Parkinson, on imagine tout de suite les tremblements, et là je parle sous le contrôle. Mais un des symptômes les plus importants, c'est la difficulté à communiquer, difficulté à s'exprimer. Et justement, il y a un petit appareil, une petite application gratuite qui va changer la vie des personnes qui souffrent de cette maladie.
Ah, très bien.
À ses côtés, Patrick Peloux, l'âme d'une rockstar coincée dans le corps d'un conseiller clientèle Cofidis. Chaque vendredi, notre expert éco Axel de Thaler réalise son rêve d'enfant, se produire devant un public qu'il contribue largement par ses hurlements à galvaniser. Bonjour Axel de Tarlet.
Bonjour Mathieu.
Ah, désolé, aujourd'hui il n'y a pas de public, hein, mais il y a Patrick Peloux. Avec quel sujet allez-vous tenter de le séduire?
Avec la grève à la SNCF et le malaise. Et là, il y a des trafics bloqués jeudi et toute la semaine.
C'est vraiment feel good quoi. Merci Axel. Il
paraît que vous allez voter pour Anne Le Gall de toute façon, que c'est plié, que ça a été négocié.
Bah, non, elle n'est pas là donc.
Mais elle va arriver. Merci
On
Axel.
On se bat vraiment pour la gloire.
Le programme est donné, l'équipe est sauvage, peut démarrer.
L'équipe est sauvage.
C'est donc l'urgentiste Patrick Peloux qui va nous accompagner cet après-midi. Patrick qui est aussi, je dois le dire d'emblée, mon médecin traitant. C'est le DRH d'Europe 1 qu'il avait missionné pour me faire un check-up de routine il y a 2 ans. Son diagnostic avait été assez limpide.
C'est un petit mental qui a une incapacité totale à s'extraire du présent.
Parlez clairement, docteur.
D'accord. En clair, il est incroyablement con.
Patrick Peloux. Mon médecin traitant est avec nous. Vous publiez « Mieux vaut mourir debout que vivre à genoux » aux éditions Robert Laffont. Deuxième tome, après un premier ouvrage, on le disait, en 2013, dans lequel vous autopsiez donc les grands hommes. Est-ce que vous auriez rêvé d'être médecin légiste ?
C'est compliqué. La médecine d'urgence est en fait un carrefour où on gère souvent en fait la mort. Donc c'est un peu compliqué. Et puis quand on arrive sur des endroits ou au domicile des gens où il y a un cadavre, il faut tout de suite qu'on réfléchisse pour faire un obstacle médico-légal ou pas. Donc il y a une espèce c'est un espèce de carrefour. J'aurais pas pu parce que notamment l'autopsie des enfants, moi j'aurais pas pu. C'était. Et puis on me l'avait. Quand j'étais étudiant, j'étais à l'hôpital Trousseau et on faisait à l'époque beaucoup d'autopsies d'enfants et à chaque fois je déclarais que j'avais poney moi. Hein. Je pouvais pas. Un truc.
C'est la limite que vous
avez. Non, j'aurais pas pu.
Alors, on découvre dans ce livre comment sont morts Verlaine, Van Gogh, Frida Kahlo, Debussy, Billy Holiday et Louis de Funès. Alors, de Funès, moi, je pensais qu'il était mort en disant au curé
« Fais-toi le cabre ! Fais-toi le cabre, je te tape !»
En fait, non.
Non.
Comment ça s'est passé pour Louis de Funès ? Il était cardiaque ? Il a eu une crise
cardiaque ? Il était cardiaque et je remercie encore Olivier et Patrick de Funès parce qu'on a beaucoup parlé... La fin de Louis. Ce qu'il faut savoir, parce que c'est un livre qui en fait vous rend optimiste sur le fait de vivre en 2019.
Ouais, c'est ça, sur l'évolution de la médecine. Oui.
Parce que Louis de Funès aurait fait son infarctus aujourd'hui. Louis de Funès, il aurait tourné encore pendant au moins 40 ans. À l'époque, on les soignait comme on pouvait et c'était en fait avec des complications qui étaient épouvantables. Et Louis est décédé d'un nouvel infarctus à Nantes. Mais la cardiologie à l'époque ne pouvait pas faire les progrès considérables qu'on a aujourd'hui.
Et c'était hier, hein, pourtant.
Ouais,
hein,
c'était hier.
On sait généralement comment ils ont vécu, pas comment ils sont morts. Patrick Pelloux nous le raconte dans son dernier livre. Il est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre, lui, on ne sait pas comment il mourra. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'à son enterrement, on rediffusera sa reprise de Queen, dite du karaoké de la honte.
Go on and on and on.
Prestation qui maudira les Mbida sur au moins 7 générations. Franchement, puisqu'on a un docteur sous la main, il y a une maladie de la langue là, non ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui, docteur ?
Allez, vous préparez le bloc, on ampute.
Ça va ! En attendant, Anissé va tenter de se rattraper aujourd'hui en nous révélant un dispositif novateur qui pourrait changer la vie des victimes de la maladie de Parkinson. A tout de suite.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h. Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage. Continue 2 heures placées sous le signe de la gaieté et de l'érudition, particulièrement aujourd'hui puisque le docteur Patrick Pelloux nous raconte les derniers instants des grands de ce monde. Le livre vient de paraître chez Robert Laffont. Mortellement savoureux, dit son éditeur. Et c'est vrai, on continue d'en parler. Mais Patrick, vous le savez, l'ubérisation de la société a fait une nouvelle victime, les journalistes d'Europe 1. Désormais en compétition chaque après-midi. Et oui, et comme Uber, on est pas mal valorisé, mais on n'a pas de blé, d'où la gueule de notre couronne qui commence. Je lance un appel officiellement sur Europe 1, si vous voulez.
Oui.
Nous envoyer une bonne couronne, ça sera mieux. Une couronne dont est tout proche notre premier concurrent du jour. Sa 4e place au classement aurait pu lui monter à la tête. Heureusement, il a su rester simple, sympa, accessible. Ce matin, il avait même pensé à m'apporter un paquet.
Voilà mon linge, vous le ferez à 40 et à la main.
Bon, Anissé Mbida, parfois on a du mal à voir à quoi peut servir une technologie de pointe. Et là, aujourd'hui, on va comprendre très concrètement.
Oui, je ne sais pas si vous connaissez des personnes qui sont atteintes de la maladie de Parkinson, mais ils ont beaucoup de difficultés à parler. Je le disais tout à l'heure, hein, on imagine surtout les tremblements, mais 90% des personnes, et là je parle sous contrôle de mon aidé, ont des problèmes à parler, parlent beaucoup moins fort et beaucoup moins distinctement. Alors on peut faire de la rééducation, hein, faire de l'orthophonie, mais il existe aujourd'hui une application gratuite et un tout petit appareil qu'on se met sur l'oreille. Et on va écouter justement comment cet appareil assez magique fait parler tout de suite la personne beaucoup plus fort et beaucoup plus distinctement. Alors on écoute ce son en anglais, c'est une personne qui parle en anglais, mais de l'arc-en-ciel.
The rainbow is a division of white light into many beautiful colors.
Alors ça, c'est la personne sans l'appareil, et une fois qu'on active l'appareil, écoutez comment elle parle beaucoup plus fort.
The rainbow is a division of white light into many beautiful colors.
Wow. Donc ça marche super bien.
Voilà, il n'y a rien, il n'y a pas d'opération chirurgicale, rien du tout, juste un tout petit appareil, soit une application, soit ce petit appareil. Alors l'appareil ressemble à un sonotone, mais qui fonctionne à l'envers. En fait, il envoie un petit son pendant que la personne est en train de parler, et ça active un réflexe, le réflexe de lombaire, ce réflexe nous fait automatiquement parler plus fort et beaucoup plus distinctement.
C'est génial.
Et ce qui est formidable, alors c'est un appareil qui a été développé par l'université de Purdue aux États-Unis. Et ce qui est intéressant, c'est que la maladie de Parkinson est une maladie neurodégénérative. Hein, c'est la deuxième maladie neurodégénérative derrière la maladie d'Alzheimer. Et souvent, pour soigner ce type de maladie, on est obligé de faire des opérations extrêmement invasives. On est obligé d'aller directement poser des électrodes dans le cerveau.
Ça, c'est encore très
lourd. C'est très très lourd. Et là, ce qui est très intéressant avec cet appareil, c'est soit vous utilisez vos oreillettes traditionnelles de votre téléphone portable, soit vous mettez cette espèce de sonotone et automatiquement, dès qu'on va parler, il va rajouter un petit son comme ça qui va nous perturber, mais qui va nous permettre, quand on est atteint de cette maladie, de parler beaucoup plus fort et de beaucoup plus distinctement. Et ce que je trouve formidable dans cette innovation, déjà, c'est qu'elle n'est pas invasive, elle est beaucoup plus pratique, c'est gratuit, hein, c'est une application que tout le monde peut télécharger. Et surtout, c'est que ça va ramener de la communication. Vous savez que demain, c'est la journée internationale pour les handicapés. Quand on a du mal à communiquer, on a tendance à s'isoler, à se retrouver un petit peu seul, ne plus communiquer avec personne. Mais ce type d'innovation, non seulement ce n'est pas invasif, c'est quelque chose qui va rapprocher les gens, qui va permettre de communiquer avec les personnes et leurs familles qui sont atteintes de cette maladie.
Ça s'appelle comment l'application?
L'application s'appelle Speech Vive. C'est une application gratuite.
C'est disponible en France.
Oui, c'est gratuit. C'est disponible depuis quelques jours en France. Et sinon, il y a l'appareil un peu sonotone qui peut régler le problème des personnes atteintes de cette maladie.
Merci beaucoup, Anissé Hamida. Axel, une réaction fair play à cette très belle chronique d'Anissé?
J'ai rien compris.
Parfait. Merci pour votre honnêteté, Axel. Patrick Pelou, c'est l'avenir, ce genre d'application? Ça peut aider?
En fait, on rentre dans un domaine, là, on est à la porte de l'arrivée des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle, de ce que ça va faire dans la médecine, de ce que ça va faire pour les malades. Donc, c'est intéressant. Faut, en effet, comme vous dites, il faut que ça soit accessible à tout le monde. Oui. C'est ça l'enjeu.
Ouais. Cette chronique mérite-t-elle 1, 2 ou 3 points? Vous votez chaque jour via Twitter. Quant à Patrick Pelou, il vous fera savoir sa décision juste avant 18h ou peut-être un peu après. Même urgentiste, ça reste un médecin. Ne l'oublions pas. À suivre. Justement, la France est un pays merveilleux qu'on aime viscéralement. Mais faut pas se voiler la face, il y a deux choses qu'on n'aura jamais en France. Un, et je parle sous le contrôle de Patrick.
Quel bonheur, un docteur qui arrive.
À part dans une chanson de Chantal Goya, aucun docteur n'est jamais arrivé à l'heure, j'en ai jamais rencontré. Et deux, un train qui arrive à l'heure. À l'approche des grèves du week-end, la SNCF perd encore 18 points dans le palmarès des entreprises préférées des Français. Alors l'ouverture à la concurrence en 2020 est-elle une bonne nouvelle ou pas pour nous, usagers? Axel de Tarlet nous répond juste après une once de nostalgie. Cambodia, Kim Wilde sur Europe 1.
Ah, c'est bien ça.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Vous êtes fidèle à Europe 1, la preuve d'un goût certain. L'équipe est sauvage, la grande compète des journalistes de la station continue avec un invité passionnant aujourd'hui, un grand humaniste, un grand altruiste.
Alain Delon.
Presque. Aujourd'hui, Patrick Pelou nous accompagne cet après-midi.
Désolé, Patrick Pelou.
C'est très drôle.
On vous en remercie, Patrick. Car on sait, Patrick, que vous avez un emploi du temps chargé. Oui, on se dépêche, Patrick.
Là, j'ai pas vraiment le temps. Si on a besoin de moi, de toute façon, j'ai un cours.
Ah bon, ok. À la Sorbonne?
Non, à Roland-Garros.
C'est le médecin. Patrick, vous publiez « Mieux vaut mourir debout que vivre à genoux », une enquête sur les dernières heures des grandes ce monde, de Louis de Funès, dont on parlait tout à l'heure, à Napoléon, en passant par Verlaine ou encore Van Gogh. Et connaissant votre histoire personnelle, votre lien à Charlie Hebdo, certains choix ont un écho particulier, puisque toujours malicieux et taquin, vous avez choisi d'ouvrir le livre sur la mort de Mahomet. Pam ! Vous avez hésité ?
Non, j'ai pas hésité. Le premier, j'avais fait la mort de Jésus.
Et, oui, donc c'était logique, finalement.
Voilà, et donc c'était logique de faire le prophète. Mais c'est intéressant, je pense que même pour étant athée et avec mon histoire de Charlie Hebdo, et c'est vrai qu'il y a un pied de nez, hein, le premier chapitre, le prophète Mahomet, le dernier charbe, mais ça m'a fait marrer.
Oui, c'est vrai que... Oui. Il est mort à quel âge? On sait ça à peu près? Il y a un doute sur son âge?
Alors non, parce qu'à l'époque, tu sais, il y avait pas de référence sur la naissance, etc. Donc en gros, la théorie serait qu'il avait aux environs de 60 ans. En fait, c'est pas vraisemblable. C'est plus aux environs de 40. Après, il a fallu se débarrasser de leur théorie sur le fait qu'il aurait été assassiné, empoisonné par une juive, une femme. Donc, il a fallu écarter tout ça. Et puis après, le plus vraisemblable, c'est qu'il soit mort de la tuberculose et avec des mystères. C'est-à-dire, par exemple, il est mort alors que Médine était une ville où il y avait quand même une connaissance... sur la médecine, il est mort sans avoir recours à des médecins. C'est un peu le mystère du truc. Ouais.
C'est Sherlock Holmes, ces enquêtes. Chaque chapitre, je trouve que c'est une enquête de Sherlock Holmes.
On est vraiment heureux d'être né au XXe siècle, pour certains, voire au XXIe pour les plus jeunes.
Parce qu'à
l'époque, il valait mieux pas croiser un médecin parfois. C'était peut-être mieux parfois de ne pas croiser le médecin.
Le médecin est un tueur en série. Mais oui.
De faire des saignées alors qu'il n'y a aucun intérêt pour faire des...
La saignée, c'était... Alors ça partait d'une théorie qu'en gros, ils appelaient ça les humeurs. Le sang était pas bon, donc fallait le changer. Donc, hop, il faisait des entailles au niveau des jambes ou des bras, puis il t'enlevait.
Il y a celle de Tarly qui en train de s'évanouir.
Alors là, c'était variable. Mais en gros, il t'enlevait, ça allait à un verre, un litre et tout.
Et n'importe quoi. Il n'y a pas de transfusion à l'époque.
Non. En fait, c'était assez compliqué. Par exemple la mort d'Henri VIII, où d'un coup, il a sa lance qui s'est enfoncée dans l'œil et tout. Il tâtonne pendant 2-3 jours, donc ils enlèvent les échardes et qui sont grandes comme le doigt, qui sont dans l'œil et qui en fait ont pénétré jusque dans le cerveau, d'accord. Mais c'est au niveau frontal, donc lui il est dans un coma, il doit avoir mal, mais je te raconte pas. Et en fait, pour comprendre le truc, donc il décapite.
Ah oui, ils n'y allaient pas de la mort, ils ont décapité
des prisonniers. Des prisonniers pour retester ce que fait une lance dans l'œil. Tu vois.
Et oui,
il meurt, puis après. Mais ça, c'était la pratique de l'époque. Tout le monde était autopsié, parce que c'était important d'autopsier le roi. Et en fait, c'est là où il découvre que la lance avait fait un énorme abcès au niveau cérébral.
Comme quoi, ils ne sont pas morts en vain, tous ces braves prisonniers.
Voilà. J'espère que Christophe Andelat nous écoute.
Christophe Andelat se régale, il boit du petit lait. Mieux vaut mourir debout que vivre à genoux. C'est le nouveau livre de Patrick Peloux, qui est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre, pour triompher dans cette rude compétition qu'est l'équipée sauvage, certains misent sur le travail ou le talent, d'autres sur la délation. C'est clairement le cas d'Axel de Tarly, qu'il n'aurait pas fait bon connaître en 42, puisque souvent, durant la coupure pub, il se penche vers l'invité et s'exclame
« C'est pas pour balancer, mais... »
Or, quand une phrase commence par ces mots, on peut tout de suite imaginer l'ignominie qui va suivre, et ça n'a pas manqué vendredi.
Ève Roger, elle fait de la retape et de la recycle.
Oh, mais...
Oui, parce que ce sujet, elle l'a déjà fait ailleurs. Quand un sujet a été essoré par Tende, petite goutte pour l'équipe sauvage.
D'abord dénigrer ses rivaux, puis asséner le coup de grâce avec un bon sujet. Aujourd'hui, Axel de Tarly nous dit qu'il faut attendre de l'ouverture à la concurrence de la SNCF. A tout de suite.
L'équipe sauvage sur Europe 1. 16h-18h. Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe sauvage continue 2 heures d'une chevauchée folle sur les talents du savoir qu'Eva Rock monte à cru.
Ah ouais.
Non, c'est dingue. La compétition continue sous l'œil de notre invité d'honneur Patrick Peloux, qui lui aussi booste votre culture G avec un livre où il dévoile les dernières heures des grandes de ce monde. On continue de le feuilleter ensemble, mais l'heure est venue de céder le micro à notre deuxième concurrent du jour, un grand de ce monde lui aussi, le marquis de Tarly, expert égo d'Europe 1 qui fut dans sa jeunesse, croyez-le ou non Patrick, le lead singer d'un groupe de rock alternatif très alternatif. On a du mal à le croire aujourd'hui, mais quand il s'entend chanter, lui aussi a du mal.
C'est épouvantable de s'entendre. On croit qu'on chante bien, mais...
T'étais pas chanteur dans ton groupe de rock.
Je te rappelle que voilà, j'étais chanteur dans mon groupe de rock.
T'étais chanteur.
En fait, j'ai compris pourquoi rapidement ils voulaient faire des musiques instrumentales.
Axel de Tarly, heureusement, vous aviez prévu un plan B. Le journalisme économique, bien joué. Ce qui va vous permettre de nous parler aujourd'hui de la SNCF et ce qui nous intéresse le plus, l'avenir de la SNCF, mon cher Axel.
Exactement, parce qu'en fait, donc il y a une grève jeudi. On pense beaucoup que c'est à cause de la réforme des retraites, mais il y a quelque chose d'énorme qui est en train d'arriver à la SNCF et qui a lieu en ce moment, puisqu'on est en décembre 2019. C'est l'ouverture à la concurrence qui commence techniquement demain. Ça va se faire en deux temps. À partir de demain, ce sont les TER qui sont ouverts à la concurrence. Et dans un an, en décembre 2020, ce seront les TGV. C'est-à-dire que, de même que quand on prend l'avion, on peut prendre la compagnie de son choix, dans un an, pour faire Paris-Lyon, on pourra prendre le TGV de son choix. C'est-à-dire, soit le TGV de la SNCF...
Mais c'est vraiment un séisme, ça, dans le monde du ferroviaire.
Ah ben, c'est un séisme, oui, voilà. Mais c'est déjà le cas dans les autres pays européens. La SNCF, d'ailleurs, ne se prive pas d'aller faire rouler des TGV en Espagne. Et donc, là, ça nous arrive. Alors, ça commence aujourd'hui pour les TER. Alors, pour les TER, on va procéder par appel d'offres. Et donc, il y a déjà... plusieurs régions, dont la région Nord, la région Grand Est, la région Sud aussi, où ils sont très mécontents des retards des trains, des TER, notamment entre Marseille et Nice, ont d'ores et déjà annoncé qu'elles allaient lancer les appels d'offres pour remplacer la SNCF. Et donc, on va avoir des TER. Alors, il y a déjà la RATP, figurez-vous, qui se propose de faire rouler des trains régionaux privés. Elle s'est associée avec Eurotunnel pour faire ça.
La RATP à Marseille, ça serait drôle.
Voilà, la RATP à Marseille.
Dans les Alpes.
Ouais. voilà. Mais du coup, en vue de l'arrivée de cette concurrence, qu'a-t-on fait à la SNCF? Ça a été la loi de l'an dernier. On a mis fin au statut des cheminots, qui s'arrête le statut des cheminots le 1er janvier. C'est pour ça que si vous voulez ce télescope en ce moment, l'arrivée de la concurrence, la fin du statut des cheminots, alors que d'ailleurs ça veut dire quoi la fin du statut des cheminots? Ça veut dire la polyvalence, c'est-à-dire que celui qui vend des billets, faut aussi qu'il passe un coup de balai, faut aussi qu'il fasse le contrôle. Ça veut dire aussi la fin de la retraite à la SNCF. Les nouveaux embauchés à partir de janvier 2020.
Il faut rappeler que ça ne concerne que les nouveaux embauchés.
Voilà, ben la clause du grand-père, elle est, la fameuse clause du grand-père, elle est déjà effective à la SNCF. Tout ça, vous ajoutez en plus la grande grève de l'an dernier qui était contre cette réforme des statuts, qui a été, on l'a oublié, mais ça a été une grève longue, c'est un système de, de grève perlée là, en travail de jour.
On ne l'a pas oublié, hein, les usagers ne l'ont pas oublié, Axel.
Oui, bon, voilà.
Tout le monde ne vient pas en carrosse à l'Europe 1, Axel.
Non, non, moi, je viens en RER, donc c'est le RER de la SNCF. Donc,
avec des choses.
Je sais pas comment je vais faire pour rentrer chez moi. D'ailleurs, j'en profite pour passer un appel.
Oui, on s'en fout,
covoiturage.
S'il y a une voiture qui va.
Covoiturer avec celle de Tarbes.
S'il y a une calèche qui peut passer.
Ça sera
voilà. Et tout ça, bah, entre la réforme des retraites, la fin du statut, l'arrivée de la concurrence, ça crée un malaise qui fait que ça nous annonce peut-être une grève longue et dure à la SNCF. Et c'est quand même un problème pour Emmanuel Macron, parce que s'il finit par reculer, bah, c'est toute son ADN réformatrice. Qui terminera dans les poubelles de je sais pas comment terminer ma chronique, mais
et ben tu vous savez quoi, ça je vais vous regarder puis je vais vous laisser la terminer comme ça, vous en lisez, ça me fera un excellent son pour demain.
Voilà, tout ça pour dire que la grève à la SNCF pourrait être longue.
Belle fin.
Magnifique fin.
Fin de la chute.
Mais oui,
on remercie Axel de Tarlet. Équité oblige. Anis Mbida, je vais vous demander de nous dire ce que vous avez pensé de la chronique de votre rival. Une analyse adulte, constructive et raisonnée si possible.
C'est nul, ça pue.
Merci. Et attention, c'est ma question en route vers le Pulitzer. Patrick Pelou.
Oh non.
Est-ce que vous prenez beaucoup le train?
Oui.
À question nulle, réponse. Bref, je vais plutôt vous poser une question relative à Axel de Tarlet. Car comme lui, Patrick Pelou, vous avez aussi d'abord pensé à faire carrière dans la musique. Vous foutiez de sa gueule tout à l'heure, mais vous aussi,
oh là,
vous avez été musicien.
Qu'est-ce que t'as
trouvé, toi? J'ai pas trouvé de son. Non, ne vous inquiétez pas, Patrick, on est entre amis. Il n'y a pas de son.
J'ai tout détruit.
Oui, pareil, vous avez détruit les bandes. Mais alors, comme ça, longtemps vous avez hésité entre médecine et musicien.
Mais ouais, c'était les années 80. Mais si tu veux, c'est les choses qui font que tu croises des gens au début de ta vie. Et puis on jouait dans le garage, on faisait de la musique, on faisait du rock'n'roll. Et on faisait du rock'n'roll avec un jeune qui débutait et qui s'appelait Benabar et Associés.
Ah, vous avez joué avec Benabar?
Bah, on s'était croisés. On était plein de boutons, c'était formidable. et puis il y avait aussi le groupe Les Têtes Raides qui était pas loin. Il y avait. Non, ça a été des belles rencontres. C'est toujours tous des amis.
Mais vous jouiez de quel instrument?
Je massacrais les accordéons.
Les accordéons? C'était du rock'n'roll à accordéon.
Et les accordéons se sont réunis, ont fait une plainte collective et j'ai été interdit d'accordéon. Voilà.
Bon, alors, ma prochaine mission, c'est de retrouver ces bandes. Ça peut être intéressant, je pense, pour la prochaine émission. En attendant, il publie « Mieux vaut mourir debout que vivre à genoux », le récit des derniers jours des grands hommes. Patrick Pelou est avec nous cet après-midi.
Europe 1.
À suivre cette séquence déjà culte qui flatte nos instincts les plus sadiques, le quiz opposant Eva Rock à l'invité sur un thème que l'invité maîtrise où elle ne vaut pas un clou. Les défaites s'enchaînent pour Eva et notre invité de vendredi, le comte de Boudherbala, a eu cette expression qui résume bien sa chute.
J'étais en toboggan de loose.
Quelle en est la longueur exacte de ce toboggan de la loose et surtout sur quoi débouche-t-il? Réponse dans quelques instants.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage et c'est le moment qu'elle redoute. Séquence terrible, lourde de conséquences sur sa crédibilité journalistique qui jour après jour s'effrite comme une médaille en plastique dans une bassine de White Spirit. Oui, pour Eva, ça tourne à l'obsession. La nuit, elle en fait même des cauchemars. Elle se réveille en sursaut, en hurlant.
J'ai l'impression qu'il y a un ours qui va arriver.
Oui, aussi, mais souvent, elle rêve simplement que c'est l'heure du quiz. Aujourd'hui, face à Patrick Pelou qui vient de publier un livre sur les morts de gens célèbres, quoi de mieux pour rebondir, Eva, qu'un quiz sur les morts de gens célèbres? Plus précisément, un quiz, j'ai l'air d'un con. Les derniers jours de ceux qui ont eu une mort particulièrement crétine. Sont-elles vraies? Sont-elles fausses? À vous de me le dire. Alors on commence. Vous jouez ensemble. En Toscane, à Sienne, un jockey colombien, pendant une course de chevaux, a donné un coup de cravache à côté de sa monture. Résultat, il a tué un autre jockey.
J'adore.
Eva, Patrick, vrai ou fausse mort?
Moi, j'irais vrai.
Je dirais faux, puisque vous dites vrai, je dis faux. Voilà.
Eh oui, bah, vous êtes encore bien parti dans le quiz, Eva.
Ah non.
Bonne réponse de Patrick Pelou, fausse mort, mais qui débouche sur l'explication.
Oui.
Par contre, Frank Hayes, en 1923, a eu un infarctus du myocarde en pleine course. Son cheval a quand même gagné, il le seul jockey mort à avoir
c'est
gagné une course.
Mais
oui.
Mais il est encore sur le cheval ou il est tombé du cheval en passant la ligne?
S'il a été déclaré victorieux, c'est qu'il était sur le cheval.
Ah oui, peut-être. Non, oui.
Je vous le dis.
D'accord.
Faites-moi confiance. Un YouTuber a fait un tuto, comprenez une vidéo, où il expliquait comment arrêter une balle avec un livre. Eh bien, sachez que ça ne marche pas. Eh bien, Patrick, vrai ou fausse mort?
Ah oui, alors je crois que c'est vrai.
Ça, je pense que c'est
Vous avez raison, c'est une vraie mort. Juin 2018, Pedro Ruiz a demandé à sa petite copine de lui tirer dessus. Il est mort sur le coup, il avait 22 ans. Bon, ils ont plus d'1 million de vues sur YouTube. Bon,
oui, voilà. Mais enfin, ça sert
à rien. Vidéo est en ligne, mais pas la fin. Une Russe de 35 ans se filmait en train de montrer ses seins tout en sortant de sa voiture par la vitre côté passager pendant que son ami filmait et conduisait. Personne n'a vu le panneau arriver.
Mais non.
Eva, Patrick Pelou, vrai ou fausse mort?
Non.
Eva.
Non, je pense que c'est pas vraiment cette histoire-là. Donc j'irais plutôt faux.
D'accord.
Moi, je pense que c'est vrai.
Eh oui, Patrick Pelou a raison. Vraiment.
Elle est stupide.
Rest in peace, Natalia Borodina. Petit ange parti trop tôt. La vidéo est sur le site internet du Mirror. Mais la fin de la vidéo n'est pas montrée, évidemment. Eh bien, vous savez quoi? C'est une mort idiote. Mais moi, j'ai failli faire la même chose.
Mais vous avez montré vos seins?
Non, alors pas ma tête. Alors, je n'ai pas montré mes seins. Mais j'ai mis la main. Je ne sais pas pourquoi. Je revenais de Chamonix, le joli petit train de Chamonix. Oui. Et tout à coup, j'ai sorti ma main pour, je sais pas, pour ressentir l'air. Comme on fait en et là, et je l'ai enlevé. Et une seconde, mais bon, peut-être 4 secondes après,
un panneau
tunnel,
après
genre comme ça, j'aurais perdu ma main. Donc il faut bien penser à ça. Parfois on fait des gestes comme ça pour sentir l'air frais.
Mais vous avez des trop
énorme bêtise, attention à ne jamais faire ça. Donc Natalia Borodina, je compatis. Novembre 2017, grosse tempête dans le sud de l'Espagne, des inondations, des dégâts sur les bâtiments. Il est demandé à la population de rester chez soi. Un homme de 40 ans décide lui de s'entraîner au basket en tirant des lancers francs. Le panneau de basket va l'écraser. Vrai ou fausse mort?
Je vous laisse allez-y, commencez.
C'est possible,
Ah oui, remarquez, c'est peut-être la tempête qui a fait. Oui, allez, on va dire oui.
Mais c'est tout le concept de la question,
oui,
Eva.
La
vache, comme je dis souvent, encore un bon moment de radio. Vous dites oui. Fausse mort. Vous avez faux. Enfin, il n'avait pas choisi ce sport. Il faisait du kitesurf, il a été retrouvé 2 kilomètres plus loin.
Et
oui, il est décédé aussi. Attention, la question qui va vous départager, même s'il n'y a plus grand-chose à départager. Un Américain se dispute avec sa femme. Pour la peine, il va boire des bières en haut d'un pylône électrique. Réflexe habituel à l'issue d'une dispute conjugale. Qui dit bière dit envie pressante. Se soulager en présence d'électricité, ce n'est pas une bonne idée.
Il a pas fait pipi
sur
la ligne. Pelou,
vrai ou fausse mort?
Je pense ça. Alors ça, c'est possible.
Moi je dis que c'est vrai.
Vous avez raison tous les deux. Vrai mort. Et sachez que si vous êtes en haut d'un pylône à haute tension et que vous urinez, vous pouvez vous électrocuter alors que le jet ne touche pas le câble. C'est une petite info Europe 1 pratique qui peut vous servir. C'est Patrick Pelou qui remporte le quiz, évidemment.
Évidemment.
Et félicitons tout de même Eva. Le thème du quiz
était... Je lui donne la victoire.
Le thème du quiz était particulièrement éprouvant pour elle, qui a perdu, vous le savez, un de ses amants dans des conditions assez sottes, elle aussi.
Mais qu'est-ce qui s'est passé?
Elle a dû pisser sur la ligne à haute tension. Point final.
C'est bien la première fois qu'il fait des étincelles avec sa bite.
Toutes nos condoléances, Eva. À suivre, vous pensez qu'Eva Rock, c'est fini pour aujourd'hui? Vous en voulez encore?
Oui.
Alors vous serez au 7e ciel quand je vous dirai qu'Eva Rock est allée tester pour vous la nouvelle expo dédiée aux enfoirés à Paris.
Connard.
Bon, Eva, enfoiré, l'expo connard, je vous en verrai une autre fois. Vous nous racontez juste après Marie-Flore, tout ou rien sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage se poursuit. 2 heures pour comprendre le monde sans jamais oublier d'en rire. Et aussi pour vous proposer des activités ludiques ou culturelles près de chez vous. Or ce week-end, Eva Rock a testé pour vous une expo à Paris, expo consacrée aux enfoirés.
Bonjour.
A noter qu'à l'issue de cette exposition, voulant apporter sa pierre à l'édifice, Eva a proposé de rejoindre le casting du spectacle des enfoirés à Jean-Jacques Goldman, qui va étudier la maquette qu'elle lui a fait passer.
Yo,
le rap c'est pas du tout ma cam.
Yo.
Et qui, je cite son mail, reviendra vers elle très vite pour lui donner une réponse. On prend en vous, Eva. Alors, cette exposition.
C'est plus Jean-Jacques Goldman qui s'occupe du spectacle des enfoirés.
Pour moi, je vais vous dire un truc, pour moi, ça sera toujours Jean-Jacques Goldman.
Vous avez raison. En fait, c'est à l'occasion des 30 ans des enfoirés. Il y a une grande exposition sur 500 mètres carrés qui est organisée à Paris, à la Villette. Je l'ai testée pour vous et elle mérite vraiment le détour. Surtout, vous pouvez y aller avec vos enfants. Alors, tout commence avec l'appel de Coluche. Vous savez, c'était sur Europe 1, l'appel pour les Restos du Cœur, pour la création. Et elle résonne d'ailleurs, il résonne cet appel dans la première salle. Et puis, rapidement, vous allez être plongé en fait dans les coulisses du show des enfoirés depuis les origines du spectacle, quand il n'était encore que 5 enfoirés, comme nous le raconte Mathias Goudot, il est commissaire de l'expo et directeur artistique des enfoirés.
Il y a 30 ans, 89 exactement, il y a une première tournée puisque Véronique Colucci relance après le décès de Coluche. L'idée
l'idée d'avoir un concert. Elle l'appelle Jean-Jacques Goldman et avec la femme d'Eddie Mitchell, ils vont appeler tous les autres artistes, les cinq, Eddie Mitchell, Johnny Hallyday, Michel Sardou, Véronique Sanson et Jean-Jacques Goldman.
Et voilà, ils étaient que cinq au départ et puis aujourd'hui, eh bien, ils sont quasiment une centaine sur scène. Ils sont 400 surtout en coulisses et donc c'est une immersion dans ce travail-là qui vous attend. Le croquis des décors, les partitions qui sont retravaillées pour chaque artiste. Vous allez aussi pouvoir chanter avec un des ingénieurs du son des Enforêts grâce à un karaoké interactif.
Alors, Anissa Midan, je vous interdis d'aller à cette exposition.
Voilà, exactement. Et vous pouvez entrer dans un des clips ou encore monter sur scène, mais la pièce la plus incroyable, c'est celle des costumes.
Donc on est dans la loge homme, avec des costumes que vous pouvez toucher, vous pouvez regarder et pas les essayer, d'autres pourront être essayés, mais pas ceux-là. Mais il y a les chaussures aussi des Enfoirés qui ont tous été portées, hein, costumes et chaussures ont tous été portées.
Il y a une paire de chaussures là qui me paraît immense, c'est-à-dire je pense que je peux mettre deux fois mon pied dedans.
Non, pas du tout, elle doit faire du 52 à peu près. Et d'après vous, c'est qui alors? Qui est l'Enfoiré qui aurait pu porter ces chaussures-là?
C'est pas Jennifer, on est chez les hommes.
Oui, on est chez les hommes déjà, c'est Sébastien Chabal, c'est effectivement Sébastien les chaussures Chabal. De Sébastien Chabal.
Donc j'ai touché les chaussures de Sébastien Chabal, je peux vous dire que c'est absolument impressionnant. Alors, il y a des centaines de costumes par spectacle évidemment, alors autant vous dire qu'il faut veiller surtout à ne commettre aucun impair.
Un jour, et c'est filmé, vous pouvez le voir dans l'expo, Cad de repartir en slip, hein, carrément, voilà, il est reparti en courant. Alors c'est l'humour de Cad évidemment qu'on vit dans les loges, et repartir en courant en disant « mais pourquoi je ne peux pas aller comme ça sur scène? Ça serait bien plus simple que d'enfiler tous ces costumes. »
C'est absolument passionnant, mais surtout c'est ludique évidemment, le travail iconographique il est impressionnant, et surtout dans chaque pièce, vous allez aussi découvrir à quoi servent les dons, puisque toutes les missions des restos sont détaillées. Regardez bien d'ailleurs, il y a une petite pastille rose qui a été placée à proximité de certains objets, ils sont vendus aux enchères sur internet, au profit des restos évidemment. C'est jusqu'au 29 décembre 2019 au parc de la Villette. C'est du mercredi au dimanche. C'est 10 euros. C'est gratuit pour les enfants. Et évidemment, tous les bénéfices vont au Resto du Cœur.
Vous poser la
évidemment,
question.
Évidemment.
Alors ça va. Merci beaucoup, Eva Roque.
Europe 1.
La mi-temps de l'équipée sauvage approche, toujours en compagnie de l'urgentiste Patrick Peloux, réputé dans le milieu hospitalier pour sa douceur et sa prévenance envers les patients. Des patients qui sont de plus en plus difficiles.
Mais c'est une femmelette! En 14, j'ai opéré l'œil d'un Roumain avec une cuillère. Et ben le Gus était ravi.
Ah, s'il y avait moins de douillet, on perdrait moins de temps aux urgences. Hein. Patrick, vous restez avec nous, on continue d'évoquer les derniers jours des grands de ce monde, le thème de votre livre « Mieux vaut mourir debout que vivre à genoux » chez Robert Laffont. De nouveaux concurrents s'échauffent en coulisses. Avec eux, on parlera de la magie de Noël, mais aussi d'un calendrier qui dénonce les arnaques à l'étiquette sur nos produits alimentaires. Vous connaissez le calendrier de l'Avent? On vous présente un truc plus utile, le calendrier du vent. A tout de suite.
L'équipée sauvage sur Europe 1.
16h-18h,
Mathieu Noël.
Vous êtes au cœur de l'équipée sauvage. Le grand tournoi opposant les meilleurs journalistes d'Europe 1, ou en tout cas ceux qu'on m'a vendu comme tel quand j'ai signé mon contrat en août dernier.
Le lancement d'une procédure pour que l'exposition...
Pardon.
L'équation est impossible, pas possible de renier sur le smartphone.
Marie-Joëlle qui nous embarque partout dans le monde.
Le scénariste, le cinéaste.
Oui.
Ah, putain, bon. Je sais pas ce qui se passe, c'est la fatigue.
Oui, on note pour plus tard, toujours bien relire un contrat avant de le signer. Deux journalistes en compétition arrivent, j'espère qu'ils se montreront dignes de mon estime. Moi dont le professionnalisme est en revanche incontestable et incontesté, vous le savez, exactitude, rigueur et respect des artistes. Telle est ma devise, comme vous avez encore pu le constater vendredi, alors que je lançais un disque. Beautiful People, Ed Sheeran et Khalid sur Europe 1. Ou Khalid, faudrait me dire. Comment on dit? On se renseigne, on laisse comme ça pour le moment, on me dit. Oui, et le pire, c'est qu'à l'heure où je vous parle, il se renseigne toujours. Justement.
Europe 1, 16h-18h, l'équipée sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipée sauvage, 2 heures pour booster votre culture G en compagnie de la crème des meilleurs journalistes d'Europe 1 et en présence de la truculente Eva Roque, dont l'esprit grivois sans limite et l'humour très sale de garde lui vaut son surnom, la Michel Simès au féminin. Mais Eva le sait, elle a reçu des consignes entre 16h et 18h face à la concurrence. Europe 1 a opté pour un positionnement humour mais chic. Résultat, elle fait désormais très attention à ce qu'elle dit, comme vendredi avec le comte de Boudherbala.
Votre rêve de gosse, c'était de devenir basketteur professionnel et vous avez presque réussi.
J'étais à deux doigts, il me manquait 20 cm.
Non, j'ai rien dit.
Oui, elle se gendarme désormais et nos auditeurs vous disent merci, Eva. 2 heures d'humour chic, donc pour apprendre en s'amusant et avec un invité d'honneur également. Aujourd'hui, c'est l'urgentiste Patrick Peloux qui nous accompagne pour la sortie de Mieux vaut mourir debout que vivre à genoux, le récit des derniers jours et parfois des dernières heures des grands de ce monde. On continue d'en parler. Le temps simplement, Patrick, de vous présenter nos deux derniers concurrents du jour. L'une est la grande perdante des tractations au sein du bureau politique des Verts pour désigner leur nouveau chef.
Assez,
Oui, les bureaux politiques des Verts sont toujours très animés. C'est finalement Julien Bayou, vous le savez, qui a été élu, au dépend donc de l'expert environnement d'Europe 1, Anne Le Gall, qui pourtant avait fait campagne sur une argumentation choc.
Sauver les insectes, c'est un petit peu sauver le monde, donc voter pour moi, c'est un petit peu sauver le monde.
C'était pourtant le choix du bon sens. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bonjour Anne Le Gall.
Bonjour à tous.
À l'approche de Noël, vous nous parlez aujourd'hui non pas du traditionnel calendrier de l'Avent, mais d'un calendrier du vent.
Voilà, c'est l'association Foodwatch qui lance ce calendrier. Donc le concept, c'est une arnaque dénoncée par jour du 1er au 24 décembre.
Une arnaque sur les étiquettes.
Exactement, arnaque alimentaire.
À ses côtés, mon cher Patrick Pelloux, une autre figure d'Europe 1 qui est tombée de haut cet après-midi. Hautain de nature, syndrome de supériorité encore renforcé par ses 9 T cumulés dans Télérama, Nicolas Caro, notre expert libre, a mal vécu de découvrir, en jetant un coup d'œil au classement général, sa position actuelle.
Je suis 7e, j'aurais jamais dû prendre des vacances, moi.
Bonjour Nicolas.
Et ouais, j'ai fait l'erreur de me reposer.
Une semaine de vacances
quoi.
Et on dégringole au classement.
Je vais revenir.
Alors pour engranger des points facilement aujourd'hui, vous oubliez les auteurs difficiles et vous nous proposez un conte de Noël.
Oui, mais par Charles Dickens.
Ah, c'est classe.
C'est le plus vieux conte de Noël, donc on va allumer la cheminée, je vais vous le raconter.
Oh, on mettra un peu Maria Carré.
Oh mon dieu, cette phrase.
On mettra Frank Sinatra alors.
Je vais y aller.
Oui, voilà.
Ou Tino Rossi, pardon. Puisque
non,
alors Frank Sinatra. Voilà pour le programme de cette deuxième heure. Qui décrochera la timbale? Nous le saurons peu avant 18h. Pour le moment, je me tourne vers notre invité, le docteur Patrick Pelloux.
Oui.
Ses colères pour défendre l'hôpital, ses larmes après les attentats, son rire aussi, car c'est un homme qui aime la vie. Qui est pour vous Patrick Pelloux? On est allé vous poser la question.
Patrick Pelloux, il est urgentiste, c'est ça?
45 ans.
Alors, au moins 50 ans.
Ouais.
Une bonne cinquantaine. C'était un bel homme. Il me fait penser à mon cardiologue. C'est le monsieur qui est urgentiste et qui écrivait aussi pour Charlie Hebdo.
Les cheveux un tout petit peu longs, un visage un peu arrondi, a l'air sympathique, voilà.
Bravo, bravo à lui, qui continue, qui se batte. Les gens sont pas assez nombreux, donc ils bâclent leur travail et ils sont pas reconnus. Et c'est mauvais pour les gens qui travaillent à l'hôpital, c'est mauvais pour tout le monde. Donc il y a quelque chose à faire, donc oui, bien sûr.
Ah ben ça coûte de l'argent, ça c'est sûr. Hein.
C'est sûr, mais moi je trouve quoi là pour l'hôpital, si. Alors là, c'est honteux ce qui se passe à l'hôpital.
Mais il faut donner des moyens, bien sûr, à ces gens-là. Si mes impôts vont aux urgences, je suis d'accord.
Ouais, moi aussi.
J'aimerais bien savoir où il va ouvrir mon fric, d'ailleurs.
Tous derrière Pelloux.
Alors, Patrick Pelloux,
vous avez payé combien?
Ah non, on n'a pas payé, c'est spontané et c'est un bon point. Visiblement, tout le monde est d'accord pour soutenir financièrement l'hôpital et surtout les urgences. Pourquoi quelque chose qui fait l'objet d'un tel consensus dans la population est si difficile à mettre en place?
Parce que c'est un système qui est très décrié dans la technostructure et politiquement sur le monde hospitalier public et la fonction publique hospitalière. Donc du coup, vous avez une espèce de deux mondes qui s'affrontent. Un monde qui est les gens de terrain et qui sont pour le confort des malades, les prises en charge, le développement de l'hôpital. Et puis une technostructure qui, depuis à peu près 20-30 ans, a décidé de diminuer le nombre de lits d'hospitalisation, d'hôpitaux et d'avoir une compression des budgets, ce qui fait qu'en fait, chaque année, on nous vote un budget en déficit. Donc du coup, on est déficitaire, donc du coup, ça ne marche pas.
Or, le nombre de personnes accueillies, de patients accueillis aux urgences a doublé en 10 ans, c'est
oui,
ça
oui, oui, oui.
De 10 millions à 21 millions.
Oui, 21 millions. Puis on va, ça continue à monter parce que là, le projet du gouvernement de faire un système d'accès aux soins téléphoniques, ça va encore faire flamber la fréquentation des urgences.
Mais là, il y a quand même eu 1,5 milliard de débloqués par le gouvernement.
Non, pour... non, c'est un jeu d'argent, en fait. C'est un jeu.
C'est un trompe-l'œil,
oui,
d'après vous, c'est ce que vous dites.
En fait, c'est de l'argent qu'ils n'ont pas, qu'ils disent qu'ils vont donner, mais qui, en fait, ils reprennent. C'est le jeu des déficits, en fait.
Il y a aussi des primes qui ont été accordées aux infirmières. Des primes, ça ne vous suffit pas? Vous voulez une revalorisation salariale?
Non, parce que
vous...
d'abord, les primes, et ça, c'est le sujet d'actualité de la semaine, vous ne cotisez pas sur la retraite quand vous avez des primes, donc déjà le personnel n'est pas content. Deuxièmement, ce n'est pas du tout ce qu'il demandait. Et ce que disent les infirmières, d'avoir 2 euros par jour de primes, ce n'est pas du tout ça qu'ils veulent, quoi.
Est-ce qu'on est vraiment un des pays de l'OCDE qui paye le moins bien ses infirmières?
Oui, on est à la 26e place. Oui, oui.
Ah oui, c'est pas terrible, oui. Effectivement.
Bah, non, c'est pas terrible. Et on est après les infirmières turques, croates, etc. Et ça, c'est vraiment un truc qui va pas du tout parce que les infirmières, mais comme les aides-soignants, les ambulanciers, les assistantes sociales, elles ont perdu en pouvoir d'achat. Donc d'un coup, ils quittent l'hôpital public parce que faut bien vivre. Et puis, par exemple, sur des grandes villes comme Paris, mais c'est valable pour les autres. C'est très difficile de vivre, donc il faut les comprendre, ils s'en vont, quoi.
Il se bat pour nos hôpitaux. Il publie « Mieux vaut mourir debout que vivre à genoux ». Les derniers jours des grands hommes. Patrick Peloux passe l'après-midi sur Europe 1.
Europe 1.
À suivre. Ah, j'ai mis Maria Carré quand même. C'est un moment magique qui approche. Noël et son cortège de réjouissances. Cadeaux en double, bûches rassis et voisins du dessous qui passent vous chanter « Mon beau sapin » en polonais.
Écoutez, monsieur Moscovic, ça fait des années que vous nous cassez les couilles. Alors maintenant, rentrez dans votre pays et foutez-nous la paix!
Heureusement, il y a aussi des belles choses à vivre à Noël, en famille, comme relire un conte de Noël de Dickens, Nicolas Carroir.
16h-18h sur Europe 1, l'équipée sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipée sauvage, 2 heures pour comprendre le monde sans jamais oublier d'en rire et en notant les journalistes d'Europe 1 qui se tirent la bourre au service de votre culture G. Cet après-midi, on évoque les derniers jours des grands de ce monde, souvent dramatiques, parfois cocasses. Patrick Peloux en a fait un livre, « Mieux vaut mourir debout que vivre à genoux ». On y apprend que trop aimer peut tuer, mais trop manger aussi, comme Louis XVIII. Nous faire attention.
Ah oui, mais on pourrait pas faire les repas. C'est pour ça que ça m'amusait de marquer le menu qu'ils avaient.
Parce c'est monstrueux.
On pourrait pas. Enfin, mais en fait, c'était une autre conception. C'est-à-dire, ils n'avaient pas grand-chose à faire. Hein. Et, ouais. Il a existé un monde où il n'y avait pas Internet et les smartphones, il faut le dire aux plus jeunes. Et donc, en fait, ils mangeaient. Et ils mangeaient tout, en fait. Tu vois, ils mangeaient du gras doux, ils faisaient des espèces de pâtés et tout. Et ils passaient, ils commençaient à manger assez tôt et puis jusqu'à assez tard. Voilà, ils passaient la journée, une bonne journée de repas. Et en fait, Louis XVIII, oui, c'est toutes les conséquences de la suralimentation.
Patrick, on continue de feuilleter ce livre, mais la compétition continue. Voici venir Nicolas Carreau, l'expert littérature d'Europe 1, expert en retournement de situation, puisque la semaine dernière, après un démarrage catastrophique avec un jeu de mots d'une indigence qui avait choqué notre invité Philippe Besson...
Bon, c'est pas mal, attends.
C'est lamentable.
Il avait réussi ensuite, on ne sait plus comment, à triompher. Nicolas, aujourd'hui, vous nous recommandez non pas un conte de Noël, mais le... conte de Noël, celui de Charles Dickens.
Mais le classique des classiques, le conte de Charles Dickens, publié en 1843 et qu'on relit chaque année, c'est l'histoire de Noël la plus célèbre au monde, après le Nouveau Testament quand même. Ça s'appelle Un chant de Noël, c'est très court et très beau, c'est en poche d'ailleurs, tout le monde connaît sans forcément l'avoir lu, il y a eu plusieurs adaptations en film et en dessin animé, un Disney notamment, avec Picsou dans le rôle titre, le rôle de Scrooge, ce qui est d'ailleurs le nom de Picsou dans la version originale, je vous le dis en passant, les Américains ne connaissent pas Picsou, ils connaissent Scrooge.
Ça, c'est logique, parce que Picsou en anglais ne veut pas dire grand-chose. Hein.
Voilà, exactement. Mais ce n'est pas non plus une traduction littérale, c'est ce que
D'accord,
je veux dire.
Oui,
c'est tiré du conte de Dickens.
Taquine.
Scrooge a donc été imaginé par Dickens. Il s'appelle Ebenezer Scrooge. C'est un vieux monsieur aigri, très riche. Il n'aime rien. Il râle tout le temps. C'est un sale type. C'est Mathieu Noël, si vous voulez. Quand son assistant... vous allez voir, c'est étonnamment proche. Quand son assistant crève de froid dans son bureau en plein hiver, il lui interdit de remettre des bûches pour chauffer la pièce.
Ah, bien sûr, parce que, attention, pensons aux émissions de gaz à effet de serre. Pas trop de bûches.
Il déteste à peu près tout, Scrooge, sauf l'argent. Il n'en fait rien de particulier, juste il le garde. S'il y a quelqu'un qu'il aimait bien quand même, c'était son associé, Jacob Marley, son seul ami, mais il est mort il y a 7 ans. Voilà pour le portrait. Nous sommes le soir de Noël, donc avec Scrooge qui est seul, comme toujours, et il s'en félicite. Il rentre chez lui, se complaît dans sa détestation de Noël. Il peste contre les chants qu'il entend dans la rue, etc. Il râle encore et toujours.
Mais c'est un conte de Noël, Nicolas, donc il va s'assagir.
Eh bien, bien sûr, grâce à l'intervention de Jacob Marley, ou plutôt son fantôme. Il apparaît d'abord sur le marteau de la porte d'entrée de Scrooge. Quand il rentre chez lui, il voit distinctement son ami. Écoutez ce passage lu par Marc Messier.
Il n'était ni furieux ni féroce, il regardait Scrooge avec l'expression habituelle de Marley et portait des spectres de lunettes relevés sur son front de spectre. Ses cheveux étaient bizarrement agités, comme par une haleine ou par des vibrations d'air chaud. Et bien que ses yeux fussent grands ouverts, ils étaient absolument immobiles. Pendant que Scrooge considérait fixement ce phénomène, le marteau redevint un marteau. Dire qu'il ne tressaillit pas ou qu'il ne sentit pas courir dans ses veines certaines sensations d'effroi qu'il n'avait pas éprouvées depuis sa petite enfance serait mentir. Mais il remit la main sur la clé qu'il avait lâchée, la fit tourner avec énergie, entra et alluma sa bougie.
Il faisait voilà. Livre pour enfants,
et
Marc
ensuite,
Messier.
Marley va bousculer Scrooge, lui ordonner de changer de comportement. Puis les 3 esprits de Noël vont lui rendre visite aussi. L'esprit des Noëls passés, du Noël présent et des Noëls futurs. C'est une nuit qui va tout changer pour Scrooge. Je vous laisse découvrir comment en lisant donc Un chant de Noël de Charles Dickens.
Chers auditeurs, si jamais vous en avez marre de...
Libérer
Vous avez donc maintenant l'alternative idéale pour vos enfants. C'est quand même autrement qualitatif.
Hein, le dessin animé repasse souvent à Noël. Moi, c'est un peu ma Madeleine.
Oh, qu'il est mignon.
Mais
oh, oui, il est
Picsou
trop mignon.
Mickey.
Oh, vous aurez peut-être un point bonus pour la mignonnerie.
Ah, en tout vous cas... insultez en même temps.
Non, ouais,
ne laissez pas tout faire.
Merci Nicolas Caro. Votre sujet aura-t-il convaincu notre invité, le docteur Patrick Peloux? Réponse peu avant 18h.
Europe 1.
À suivre, fut un temps lorsqu'on voulait se détendre en famille avec une soirée série. Le choix était plus simple, à vrai dire, il n'y en avait pas. On commençait par Maggie.
Elle voit souvent rouge,
bien.
Avec
et puis on enchaînait sur un épisode de Navarro.
Blomé, trouvez-moi un téléphone et lancez un appel.
Aujourd'hui, on... c'était une belle époque quand même. Aujourd'hui, on est littéralement abreuvé de séries qui arrivent de toutes parts. Heureusement, Eva Rock vous déblaye le terrain à la machette de sa sagacité. Elle nous dit ce qu'on regarde ce soir, mais d'abord, Eva, je
vous
crois qu'on va jouer. Des petites clochettes.
C'est le Père Noël qui arrive sur Europe 1. Hein. Il n'est jamais très loin, tous les jours et jusqu'au 5 janvier. C'est la hôte de Noël qui est de retour, mais oui.
Non.
Avalanche de cadeaux à gagner.
Génial.
Séjour au ski, smartphone, thalasso, des voyages. Alors aujourd'hui, vous pouvez tenter de gagner un magnifique robot cuiseur multifonction.
Impeccable.
Cook Expert de Magimix, valeur 1 300 € quand même. Hein. Pour jouer, vous vous inscrivez au tirage au sort en appelant le 3921, 50 centimes la minute, ou vous envoyez le mot de passe Noël, N-O-E-L, par SMS.
Facile à retenir, c'est mon nom.
Ben oui, c'est votre nom de famille. Au 739-21, 75 centimes, plus les coûts des SMS, 3 messages pour jouer. Bonne chance à vous.
Oh oui, bonne chance à tous, mais surtout à moi, parce que je vais jouer. Vos...
Ah,
mais j'ai pas le droit peut-être.
Ah oui, j'avais pas le droit, je crois pas.
Il y a un huissier derrière tout ça. Vos conseils télé, Eva, c'est juste après Philippe Catherine. Luxor, j'adore, sur Europe 1.
L'équipe est sauvage, sur Europe 1. 16h, 18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe sauvage, votre shot de culture G quotidien en présence de Patrick Peloux cet après-midi. Non pas l'urgentiste, mais l'écrivain Patrick Peloux. Ah. Mieux vaut mourir debout que vivre à genoux. Je mets toujours cette musique quand on accueille un invité écrivain. C'est beaucoup plus classe. C'est le titre de la suite de votre premier best-seller sur les derniers jours des grandes semaines.
Où est ma perruque ?
Racontez-nous Billie Holiday. Il y a de l'anecdote gratinée sur Billie Holiday.
Ah,
c'est très triste parce que en fait c'est à la fois la culture sur la prohibition, être une femme, être noire, chanter du jazz,
victime de violences conjugales,
les deux viols et la nana elle tient et elle continue, c'est une femme battue, c'est très difficile. Donc en fait ça m'intéressait de replonger dans ce milieu-là, de pas, parce que tout le monde dit « Ah, Billie Holiday, c'est génial, j'écoute. » Non, il faut voir qu'en fait, vraiment, quand elle chantait, ça donnait tout le sens à ce qu'elle vivait, à sa torture. Et puis après, elle tombe dans la toxicomanie et sa fin est horrible. Parce qu'à l'époque, tu étais toxicomane, tu étais en fait surveillé par la police et tu étais arrêté.
Mais la chute de votre chapitre, elle est terrible. Est-ce que vous pouvez la raconter ?
Elle meurt dans un hôpital sous surveillance policière parce qu'en fait, elle était repartie dans la toxicomanie et elle meurt. Et à sa mort, donc les infirmières font préparent le cadavre et retrouvent une liasse de billets dans son vagin qui sont enroulés, cachés, qui étaient pour payer sa dope.
Oui, ouais. Ça résume sa triste vie quand même. Hein. C'était terrible. Ouais. Eva, puisque vous avez pris la parole, je vais vous la laisser, tout simplement. Parce qu'on parlait tout à l'heure hors antenne, pendant la pub, on discute avec notre invité. On parlait série. Patrick Peloux nous disait qu'il avait adoré Tchernobyl, comme nous tous. Qu'est-ce qu'on regarde ce soir, Eva, comme série ?
Alors deux choses, je vais commencer avec un conseil, celui de ne pas essayer de regarder la série du lundi soir sur France 2 qui s'appelle The Fix, qui a commencé la semaine dernière.
Ça, c'est pas bien.
C'est une série judiciaire sans aucun intérêt, le scénario est d'une banalité confondante.
Oh, c'est bien de dire
à la
des trucs
réalisation,
comme ça.
Elle est digne d'une série des années 80 et encore. Et pourtant, je suis d'autant plus déçue que la fiction elle a été créée par la procureure qui a instruit l'affaire O.J. Simpson, qui a donné naissance pour le coup à une excellente série, mais là, cette série-là, ça ne marche absolument pas, s'appelle
c'est bien
The Fix.
Comme ça nous fait gagner du
temps. En revanche, série allemande qui a su surfer sur l'actualité, qui s'appelle Nous la vague et qui est disponible sur Netflix. Alors l'histoire est très simple, ce sont des lycéens qui s'organisent pour lancer un mouvement de résistance face à une vague nationaliste qui est prise dans le pays dans lequel ils sont. Des presque adultes qui sont révoltés en permanence dialoguent entre deux d'entre eux.
Dis-moi ce qui te révolte. Qu'est-ce qui te révolte ici et maintenant ?
C'est Burger, juste en face.
Ok, pourquoi ?
Les clients savent que c'est de la malbouffe et pourtant ils continuent d'aller y manger.
J'ai une petite idée.
Qu'est-ce que tu fais ? Tu fais quoi ?
Tiens-moi ça, on va entrer.
Alors, le jeune homme va entrer tout de suite dans le fast-food et écoutez bien ce qu'il hurle aux clients.
Chers clients d'Happy Burgers, je vous présente les plus plates excuses de notre chaîne de restauration.
Notre boss vient de m'appeler. Ne mangez pas ça, je suis désolé. La viande des burgers que vous êtes en train de manger est pleine d'asticots.
Alors c'est très malin. Donc la malbouffe, les problématiques environnementales, la lutte contre le nationalisme et contre toutes les injustices, ils ont de quoi faire, ces lycéens. La réalisation laisse un tout petit peu à désirer, c'est un peu simple, mais c'est quand même très bien interprété et c'est surtout extrêmement intéressant sur le fond. Ça rappelle un peu Casa de Papel pour ceux qui ont vu la série. Petit point historique, cette série est adaptée d'un roman de Todd Strasser qui s'appelait La Vague, qui lui-même fait écho à la troisième vague. Ça a été une expérience menée aux États-Unis en 1967 par un prof d'histoire. Alors, premier jour de cours, il propose un cours sur les bienfaits de la discipline. Et puis, pendant une semaine, il va tenter de démontrer aux étudiants comment un mouvement fondé sur la discipline peut donner naissance à une forme de fascisme. Eh bien, figurez-vous que face à l'enthousiasme inattendu des étudiants, le prof va mettre fin à l'expérience.
Ça avait trop bien marché.
Oui, exactement. Ah ouais. Prenez le temps de découvrir la série Nous la Vague, et c'est sur Netflix.
Ah, d'accord, très bien.
Voilà.
Très bon conseil, Eva Rock, merci. À suivre, poulet élevé en plein air. Yeah. Pâte à tartiner contenant de l'huile de palme. Face à des consommateurs de plus en plus exigeants et, en ce qui me concerne, de plus en plus flippés, les étiquettes deviennent de plus en plus décisives. Or, certains industriels en abusent, d'où l'idée de l'association Foodwatch d'un calendrier de l'Avent un peu particulier. Ils dénoncent chaque jour une arnaque à l'étiquette pour éviter justement de tomber dans le panneau des industriels. Yeah. Ah ouais, super, à tout de suite.
16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage continue avec Patrick Peloux. On continue de parler des derniers jours et parfois des dernières heures des grands hommes de l'histoire, objet de votre livre publié chez Robert Laffont. Mais l'heure est venue, mon cher Patrick, d'écouter la dernière chronique en compétition aujourd'hui. L'idée est à la fois pertinente et drôle, Anne Le Gall, un calendrier de l'Avent pour épingler les arnaques à l'étiquette. Personnellement, je ne vous cache pas que j'ai été très étonné d'apprendre que des industriels ayant pignon sur rue tenteraient de nous arnaquer via leurs étiquettes. Je me disais plutôt que c'était des gens qui voulaient notre bien.
N'oubliez pas que nous avons affaire à des gens qui ne sont pas des Lumières. Le plaisir d'un vrai vendeur, c'est de vendre à des gens qui n'ont absolument pas besoin de ce qu'on leur propose, qui n'ont pas de quoi se le payer.
Marielle.
Quand ces deux gars sont réunis, alors c'est là que le sport commence.
Ah, c'est génial.
Petit hommage à Jean-Pierre Marielle. Ouais. Certaines étiquettes seraient donc mensongères. Heureusement, pour lire entre les lignes, il a désormais le calendrier du vent.
Voilà, ce calendrier proposé par l'association Foodwatch. Alors, ça se présente comme un calendrier de l'Avent que vous avez tous, hein, avec une petite vignette de 1 à 24. Sauf qu'au lieu de découvrir un chocolat chaque jour, là, on découvre chaque jour une arnaque alimentaire à éviter.
Pour un enfant, c'est déceptif quand même. Oui. Si je lui offre ce calendrier, mon fils, il ne va pas être content. Il va me foutre un chocolat en plus de la révélation.
Bon, on va dire qu'il est pour vous, ce calendrier. Donc, d'où le nom calendrier du vent, effectivement, parce que c'est des arnaques. Alors, l'association Foodwatch et Karine Jacquemart, que j'ai contactée, m'a dit « L'impunité, ça suffit. Maintenant, on veut faire savoir aux industriels qu'on les observe. » Et donc, hier, 1er décembre, le premier produit épinglé, c'était ce pot de miel.
Alors, ah bon, il a l'air bien pourtant, il a écrit bio.
Il est très beau.
Voilà, oui. Il est beau, ça sent le haut de gamme. Miel bio de montagne, on a le label européen. Ouais. On voit que le producteur, c'est la famille Vacher, donc il y a une grande étiquette en lettres dorées dessus. On a l'adresse, la Ferté-Saint-Aubin dans le Loiret. Donc tout laisse à penser qu'on a du miel français de qualité. Eh bien non, parce qu'en tout petit, voilà, Nicolas Caro, vous l'avez vu, en tout cas, ce qu'il y a écrit.
C'est miel de Mexique.
Et voilà.
Ah, mais non.
Ça n'a jamais existé, c'est ça?
En fait, donc, c'est bien mentionné, la provenance est mentionnée, miel du Mexique.
Montrez-moi ce pot.
Voilà.
Montrez-moi ce
mais
pot.
Si c'est sur l'étiquette, c'est bien. Le visuel laisse entendre qu'on a quand même affaire à un produit français. Et quand on sait que 75% des consommateurs sont prêts à payer plus cher pour acheter du local et du français, là, franchement, il y a de l'abus. Donc vous allez me dire, oui, c'est écrit, mais bon, c'est quand même en tout petit. Et c'est tellement ambigu, d'ailleurs, que dès ce week-end, le producteur a... Donc, sachant qu'il s'était fait épingler dans ce calendrier, a décidé qu'il allait modifier son étiquetage.
Il a fait savoir. Mielo de Mexico, et tout. Voilà. Il a fait un son vraiment dessus. Et puis voilà,
de
là,
la famille Zapata.
Producteur bio.
Du Mexique, on est tous d'accord.
Parfois, un petit peu de mauvaise publicité, ça marche puisqu'il a réagi.
Ah, mais ça, c'est bien. Alors, sans tout nous dévoiler, quels sont les autres types d'arnaques qu'on trouve dans ce calendrier du vent?
Alors, on a essentiellement des arnaques sur le visuel. Par exemple, les noix de Saint-Jacques à la bretonne, avec un beau phare breton, un paysage
bretonne,
de mer
c'est pas
à la bretonne.
Elles viennent de Bretagne. Quoi.
Non, elles viennent d'Amérique du Sud.
Ah
on
oui.
a le fromage à tartiflette, vraiment qui a l'aspect du reblochon, mais ça n'est pas du reblochon et ça n'a rien à voir avec le fromage d'appellation. C'est à tartiflette, mais ça n'est pas du tout du reblochon, alors qu'en général, on fait la tartiflette avec du reblochon.
Ça, c'est scandaleux. On ne plaisante pas avec la tartiflette.
Ah, non. Non.
Si, ça, c'est clair. Si je retrouve celui qui fait fromage à tartiflette, il va passer un très sale quart d'heure.
Voilà, on a aussi les macarons tricolores qui figurent sur les étiquettes et qui n'ont rien à voir avec des produits français. On a des additifs cachés. Alors ça, c'est très important. Donc, ce sont des additifs qui sont cachés dans des produits soi-disant naturels. Donc, c'est aujourd'hui le produit épinglé, c'est un vinaigre balsamique de Modène, donc soi-disant artisanal, mais qui contient un colorant qui est très décrié. C'est le sulfite d'ammonium, le E150D.
Rien que le nom.
Oui. Donc, ça n'est pas
envie.
Utile dans la recette, mais ça donne une jolie couleur.
Un cancer.
Non, mais voilà. Dans l'État de Californie, il y a une mention quand il y a du sulfite d'ammonium dans un produit, il y a une mention qui dit que ça peut induire des cancers et des troubles de la reproduction. Ah, donc, c'est pas anodin. Il y a aussi parfois des traces d'insectes ou des grosses quantités d'huile de palme dans des produits, des chocolats, des biscuits qui sont soi-disant artisanaux. Donc la subtilité à chaque fois, c'est qu'on flirte en fait avec la légalité. Il n'y a pas de publicité mensongère. C'est souvent le visuel qui induit en erreur. Et pour les détails, je vous renvoie vers le site de l'association Foodwatch. Vous aurez donc 24 arnaques dénoncées. Alors attention, moi j'ai eu accès à tout, mais il faut être patient parce qu'on peut ouvrir qu'une fenêtre à la fois.
Ah bon?
Oh, ben, vous savez, on peut les ouvrir toutes d'un coup. Hein.
Ah,
moi,
oui.
Comme avec
eh ben là, sur Internet, on peut pas.
Ah, sur Internet,
ah, oui.
Oui.
Et
oui, c'est mal.
Mais comment vous avez fait?
Ben, j'ai appelé le service de presse.
Ah, madame,
j'ai fait travail,
c'est tout le talent de Romain.
J'ai fait mon travail. Et d'ailleurs, je rajoute que le joli petit chocolat offert par notre réalisateur Philippe Amardeille, vraiment, c'est offert de bon cœur. Je vais le manger. Non, non, mais non, ça fait partie des produits avec des additifs cachés.
Ah,
et voilà.
Bravo,
mais je vais le manger
Philippe
quand
Amardeille.
Même. Merci quand même.
Merci Anne Le Gall pour ce calendrier du vent. Patrick Pelou, quand on travaille 7 jours sur 7 comme vous, qu'on est confronté à des situations terribles, des blessures affreuses au quotidien, est-ce qu'on a encore le temps d'être un consommateur vigilant quand vous rentrez enfin chez vous?
Ah ouais, ouais, ouais. Vous faites gaffe. D'abord, j'achète jamais sur Amazon, je vais toujours chez les commerces de proximité. J'ai la chance d'être à Paris dans un quartier où il y a encore du commerce de proximité parce que ce n'est pas le cas partout. Deuxièmement, je fais hyper gaffe en fait à ce que je mange. Et par exemple, je sais qu'il y avait eu un papier disant que les produits bio fabriqués en France, c'est vraiment bio. Il n'y a pas doute. Mais tout ce qui vient de l'Europe
Mexique,
et qui est soi-disant bio, du Mexique, mon cul, etc., c'est un truc, c'est pas bon. Non, non, mais c'est vraiment.
Vrai.
Et ouais, il faut faire cet effort-là. Je pense qu'on est, on doit tous avoir et devenir vraiment éco-responsable et défenseur de la protection de l'environnement.
Alors, il faut manger bio, premier message, bio français, mais il faut aussi se protéger. On va parler maintenant de François 1er. Si, on va parler de ce bon vieux François, notre bon roi, qui figure dans le livre de Patrick Pelou sur les derniers jours des grands hommes. Alors lui, c'est la totale, hein, c'est la complète, la jambe au fromage du sexe, il a tout fait et il a récolté toutes les bactéries qu'on pouvait choper.
Voilà, c'est ça. Et en fait, à l'époque, il savait pas les conséquences de toutes ces infections. Donc c'était très empirique. Alors en effet, il faisait des saignées, il savait pas trop, donc ça affaiblissait le malade, donc ça entraînait d'autres complications, etc. Et puis après, quand il a commencé à avoir des fistules, il savait pas trop comment les soigner, donc d'un coup, il est cautérisé au fer rouge.
Ah oui, sympa.
C'est bon ça. Non mais c'était. Mais alors, parce que c'est vraiment une question. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression que ceux qui n'avaient pas de pouvoir, en fait, en évitant tous ces traitements
ils étaient finalement
mieux protégés que le roi à qui ils surveillaient tout et puis ils y allaient vraiment quoi. Et c'était épouvantable.
Juste une question, ça me fait penser. J'ai lu dans un article récent que la syphilis était de retour.
Ouais,
il faut
ouais,
dire
bien sûr.
Si on peut faire un pont avec,
C'est parce qu'en fait, on ne vend pas assez de préservatifs. Donc du coup, il y avait eu un élan sur le préservatif avec le risque de contamination de sida. Mmh. Comme en fait, il y a une information qui passe qui est juste de dire qu'on arrive à traiter et tant mieux
les
sida,
jeunes
se protègent moins. Donc d'un coup, le préservatif n'est plus à la mode. Donc du coup, la syphilis, la chaude piste, tout ça, ça revient.
Expliquez-leur ce que c'est que la syphilis. Ça donnera peut-être envie aux jeunes de se protéger.
Je crois que ce n'est pas très
agréable comme maladie.
Non, c'est une bactérie qui entraîne des conséquences urinaire bien sûr dans un premier temps et puis qui peut avoir des conséquences neurologiques très sévères bien
voilà.
sûr.
Donc le préservatif Eva, on ne l'oublie pas, ne regardez pas comme ça. Non. Vous aimez son franc-parler, son ton, son humanisme, tant mieux, ça nous fait un point commun. Patrick Pelou est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre, comme moi, vous êtes tellement une quiche en cuisine que les rares fois vous y mettez, ça vous prend la journée. Vous stressez, vous râlez, vous parlez à vous-même, vous maudissez votre maladresse parce que vous vous coupez en voulant émonder une tomate, sachant que deux minutes avant, vous ne saviez pas ce que signifiait émonder, vous avez tapé sur Google. Bref, quand tout est enfin prêt, toute la maison est à cran et à votre manière de convier vos proches à table, on sait que vous êtes nerveux. Calmez-vous, respirez et écoutez les conseils d'un authentique professionnel. Olivier Pouls arrive pour votre recette facile de dernière minute, délice in extremis.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h,
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, la grande battle des journalistes d'Europe 1 au service de votre savoir. Deux heures pour récompenser les journalistes les plus méritants et châtier les feignasses en compagnie d'un invité toujours passionnant et généralement tout public. Oui, généralement, parce que vendredi, on recevait le comte de Bouderbala, très inspiré par notre débat sur les écrans et les enfants. Peut-être même un peu trop.
À Taïwan, par exemple, vous devez payer une amende de 1400 euros si on vous trouve avec un enfant de moins de 2 ans devant un écran.
Et en Thaïlande, c'est sans écran, mais avec un enfant de moins de 2 ans. C'est bien pour finir, ça.
Idéal pour cette fin d'après-midi. C'est donc pour renouer avec un public plus familial qu'aujourd'hui, on vous propose une émission spéciale kid-friendly, puisque Patrick Pelou nous parle de Maccabée. Dans quelles circonstances, parfois terribles, parfois insolites, sont passés de vie à trépas les grands de ce monde, Van Gogh, Marie-Antoinette, Mahomet, Napoléon, Sitting Bull. On en a évoqué certains, j'ai envie qu'on parle de Félix Faure.
Ah bah oui,
je ne sais pas pourquoi, comme ça, au hasard. Félix Faure est mort dans les bras de sa maîtresse, on peut le dire,
ouais.
Mais pas forcément... Alors... Ouais, à cause d'elle.
Pas exactement, voilà. C'est-à-dire qu'évidemment, on a accablé sa maîtresse. Mais en fait, en replongeant dans le truc, c'est pas aussi simple. En fait, à l'époque, ils avaient un aphrodisiaque qui était un concentré de pulvérisation de mouches. D'accord ? Ils prenaient ça parce qu'en fait, ça donnait des irritations péniennes. Mais en fait, cet aphrodisiaque était très dangereux parce qu'en fait, il donnait des hémorragies.
Quelle horreur.
Voilà, ça entraînait des syndromes hémolytiques et hémorragiques. Et en fait, Félix Faure se trompe dans son agenda et il pense qu'elle va arriver. Donc il prend vers 14-15 heures, il prend l'aphrodisiaque. Mais en fait, il reçoit un des dignitaires, l'archevêque de Paris.
et après le prince Albert de Monaco.
Voilà, et après le prince Albert de Monaco. Et en fait, et alors, c'est dans les témoignages, parce qu'évidemment, après sa mort, tout le monde a témoigné, et l'archevêque avait témoigné en disant « Mais je le trouvais très excité, et il ne tenait pas en place. » Ben ouais, parce que le gars, il avait une irritation pénienne. Donc en fait, il se levait, il était assez nerveux, machin. Bon, il voit après le prince de Monaco, etc. Ils s'en vont. Et là, sa maîtresse va arriver et il reprend le produit. Et en fait, il est avec sa compagne et tout. Et il fait une hémorragie méningée. Alors en fait, après, la légende a voulu que c'était le mot de Clémenceau, oui, disant il voulait être César, il a fini pompé, oui, voilà. Tu vois. Et voilà.
Pour ce mot, ça se lit.
Et donc, ça a été toute la légende, mais c'est en fait, je pense que l'histoire n'a rien à voir avec sa maîtresse, mais je pense que c'est à cause de l'intoxication à l'aphrodisiaque.
Les faits derrière la légende, mieux vaut mourir debout que vivre à genoux, c'est paru chez Robert Laffont. Patrick Pelou, vous restez avec nous ?
Avec bonheur.
Eh bien, tant mieux, puisque tous les soirs sur Europe 1, dans l'équipe est sauvage, Olivier Pouls enfile son tablier pour Délice in Extremis, votre recette dernière minute, afin de rallumer la flamme dans votre couple, où peu à peu, dans tous les domaines, le niveau d'exigence baisse et votre femme résignée s'exclame :
elles sont pas dégueulasses, ces coquillettes.
Surprenez-la à nouveau, comme à vos débuts, avec Délice in Extremis. Bonjour Olivier Pouls.
Bonjour Mathieu, bonjour Patrick Pelou. Alors moi, c'est décidé, en fait, j'aimerais bien mourir à table, si c'est possible.
Oui, bah ça vous pend au nez, mon vieux.
Très bien. Alors, très bonne idée.
Je disais surprendre sa femme pour raviver la flamme. Quoi de mieux pour surprendre sa femme qu'une bonne vieille soupe ? Vous nous faites pas rêver aujourd'hui, Olivier. C'est pour détoxifier les excès du week-end, c'est ça ?
Ben voilà, c'est-à-dire que quand j'ai appris qu'il y avait un médecin qui venait participer à l'émission, je me suis dit, je vais remballer mes plaquettes de beurre et mes côtes de bœuf à longue maturation. On va revenir vers des bons basiques.
Une bonne soupe vous fera du bien. Et nous aussi peut-être, Olivier, alors.
Bah alors, soupe ou potage, d'ailleurs, est-ce que vous connaissez la différence ?
Ah non.
Ah.
Non, expliquez-nous.
Alors, petit cours d'histoire culinaire. En fait, la soupe, qui est un nom un peu générique, est apparue dès le Moyen-Âge. En fait, à l'origine, c'était un plat de pauvres, bien évidemment. Et on trempait simplement du pain dans du bouillon de ce qu'on avait. Alors, des légumes, parfois un petit peu de viande, quand tout allait bien. Le potage arrive plus tard, il arrive au XVIIe siècle. Et en fait, il tire son étymologie de pot, un pot dans lequel on cuisait des légumes avec du bouillon. Et c'est d'ailleurs le mot potage qui a donné le nom de potager, le lieu dans le jardin où l'on allait chercher les légumes pour confectionner ce potage. Après, il a évolué évidemment au fil des années, des décennies et des siècles avec l'amélioration des techniques culinaires. Il peut être lié, il peut être mixé, il peut être servi avec des morceaux. Mais voilà, en général, la soupe à l'origine, c'est vraiment un plat de pauvre qui est non mixé avec du pain dedans.
Merci Alain Decaux, j'aimerais que vous me passiez Jean-Pierre Coff maintenant pour la recette s'il vous plaît.
Alors, bah écoutez, justement je voulais rendre hommage à ces premières soupes et vous proposer de faire quelque chose d'un peu original mais vraiment spectaculaire, une soupe de pain grillé. Alors vendu comme ça, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus excitant.
Non,
ça
moi,
s'appelle
ça
des biscottes.
Non mais vous allez voir, c'est assez bluffant. Moi c'est le grand chef Pascal Barbeau de l'Astrance qui m'a fait découvrir ça il y a quelques années. Je lui ai piqué la recette.
Ah oui, ah, monsieur, oh, monsieur les relations.
Et donc je vais vous donner cette recette vraiment intéressante. Il vous faut pour ça une belle tranche de pain de campagne que vous allez griller. Alors on la grille bien. Docteur, on ne la brûle pas, je précise, hein, pour ne pas avoir toutes les mauvaises molécules cancéreuses qui se baladent. Donc on fait simplement que la griller.
Très bien.
On va utiliser un bon bouillon de légumes, parce que bah, ça c'est bon pour notre organisme, environ 60-70 centilitres, un peu de crème parce que j'ai pas pu résister, une petite cuillère de moutarde, et puis quelques lardons. Alors les lardons, je m'en préviens.
Votre soupe elfie m'a l'air de plus en plus elfie. Et à quel moment vous mettez l'andouille de dedans? Ça part
très bien. Suicide au cholestérol. Ah bah écoutez, c'est bien.
C'est le diététicien de repas. Mon pouls, finissez votre...
Alors je m'empresse de dire que les lardons, on les fait griller à sec de manière justement à les débarrasser au maximum de leur gras. Donc le gras, on le jette. Donc dans ce bouillon que vous aurez réchauffé, vous allez mettre votre pain que vous aurez coupé en petits morceaux et donc préalablement grillé. Vous allez rajouter vos lardons, une belle cuillère à soupe de moutarde, un petit peu de crème, mais pas trop. Et puis on mixe le tout. Et vous allez voir, ça donne quelque chose de vraiment, d'abord une texture qui est très, très agréable, très homogène, mais surtout vous allez retrouver ce petit goût de pain grillé dans la soupe avec évidemment les notes de bouillon. C'est spectaculaire et c'est vraiment délicieux, ça coûte pas cher. Et là, je pense qu'on est quand même à peu près acceptablement diététique, docteur.
Mais totalement, mais écoute, mais rajoutez de la crème. Pourquoi ce côté chiche? Mettez un litre de crème, jetez l'eau.
Perdu pour perdu, Olivier. Vous ne devriez jamais essayer de faire des recettes détox. Ça ne vous ressemble pas. Vous n'y arriverez jamais.
On n'y croit pas.
Olivier Pouls, merci. On vous retrouve tous les samedis dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe 1.
Europe 1.
Alors que notre invité Patrick Peloux rêve déjà de cette soupe elfie.
Oui, la souplette, la bonne souplette.
Oui, oui, on vous en mettra un thermos, Patrick. L'émission, elle, touche à sa fin. Comme souvent en salle d'opération, il va falloir trancher, Patrick. Qui sera élu chroniqueur du jour? Retenez votre souffle, la grande finale approche.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h,
Mathieu Noël.
Mes chers agneaux, nous y voilà. Cette édition de l'équipe est sauvage était à l'image du plan Tinder des baroques samedi soir.
Je vous jure, j'étais frustrée. C'est horrible, hein. Ça va trop vite.
Et oui, c'est déjà l'heure du dénouement pour une fois, Eva. On aurait pu aller un peu plus doucement, ça aurait été pas plus mal. L'heure de faire un choix entre quatre journalistes éminemment charismatiques. Au fait, Eva, votre plan Tinder de samedi, il avait un gros charisme?
Oui, un énorme.
Ah, la bonne heure. On l'embrasse. En tout cas, l'heure est venue pour vous et pour notre invité Patrick Peloux de désigner qui a été le meilleur aujourd'hui. Anne Le Gall, pourquoi notre invité devrait-il voter pour vous?
Parce que je vous ai parlé des abus de la nourriture industrielle et puis défendre ce qu'on met dans notre assiette, c'est aussi défendre ce qu'on met, la protection de l'environnement.
Oui. Et vous m'avez donné une enveloppe.
Nicolas Carreau, pourquoi faudrait-il voter pour vous?
Bah Patrick, si vous le faites pas pour moi, faites-le pour l'esprit de Noël. Mais vous pouvez aussi le faire pour moi.
Petit bonhomme.
S'il vous plaît.
Lui, il mise que là-dessus, quoi. La mignonnerie. Axel de Tarlé.
Parce que vous comprendrez pourquoi vous serez bloqué dans les transports en commun jeudi et pourquoi vous allez le rester tout le mois de décembre.
Ah bah
super. Voilà. Le feel good, la chronique feel good d'Axel. Annie Semilla,
moi, c'est totalement feel good parce que c'est gratuit, c'est et ça permet d'améliorer la vie de certaines personnes qui ont des problèmes avec la maladie de Parkinson.
Eva, dévoilons d'abord le choix de nos auditeurs.
Alors, je suis moi-même étonnée parce que le sujet, pour l'instant, je
était
pensais
pourri,
que.
Voilà,
non, t'es pas pourri, mais je pensais que ça allait intéresser moins les gens que les autres sujets. Mais c'est Axel qui remporte les deux points.
C'est Axel qui a truqué probablement. Il a bourré les urnes à l'ancienne.
J'ai cette petite phrase, le public ne ment pas.
Non, là, c'est les
téléspectateurs. Les téléspectateurs d'Europe 1, évidemment. On les connaît et on les embrasse. Alors, en ce qui me concerne, je donne mon point aujourd'hui. Ah, j'hésite un petit peu. Voyons voir le classement, un coup d'œil au classement pour rééquilibrer peut-être. Ah, c'est dégueulasse. Hein.
Oui.
Oui, j'offre mes points à Anis Mbida aujourd'hui. Oui, parce qu'Anis Mbida est derrière Anne Le Gall et c'était une très bonne. Les deux chroniques se valaient à mon sens.
Mais c'est pas
une
juste,
très belle.
Hein.
Oui, oui.
C'est que vous n'avez même pas hésité pour moi. Quoi.
C'est... Non, j'ai pas hésité pour toi. Toi, Noël, je m'en fous. Mais vous le savez, ici, le dernier mot revient à notre invité d'honneur. Attention, Patrick Pelou, votre voix compte triple.
C'est vrai?
Eh oui. Donc, attention, selon leur place au classement, votre choix peut impacter le pronostic vital de nos journalistes. Qui, selon vous, mérite d'être élu chroniqueur du jour?
Moi, je vais dire Anne Le Gall.
Évidemment.
Et voilà, c'est Anne Le Gall qui remporte cette 70e édition de L'Équipée Sauvage.
Évidemment.
Au tout début de l'émission, elle dit de toute façon, je voterai pour Anne Le Gall. Il a voté pour Anne Le Gall.
Ah, je suis totalement constant dans l'amitié.
T'es santé avec Patrick Pelou.
Voilà. Le docteur Patrick Pelou est avec nous cet après-midi pour nous présenter Mieux vaut mourir debout que vivre à genoux aux éditions Robert Laffont, Les derniers jours des grands hommes, un livre passionnant. Merci d'avoir été avec nous,
Patrick,
cet après-midi.
Merci, super.
Merci également à mes journalistes Eva Roque, Anne Le Gall, Anis Mbida, Axel de Tarlé, Nicolas Caro. L'Équipée Sauvage revient évidemment demain 16h.
Europe 1, 16h-18h, L'Équipée Sauvage. Mathieu Noël.